Cette conférence s'intitule donc l'art et les artistes après le Concile de Trente, qui sera l'objet de la première partie. Et par la suite, nous allons aborder l'art et le protestantisme, qui certainement se prolongera lors de la prochaine conférence, parce que le sujet est assez dense. Alors, l'art et les artistes après le Concile de Trente, en fait, c'est lors de la 25e session du Concile, qui était d'ailleurs la dernière au Concile de Trente, en 1563. Les pères de l'Église se sont exprimés ainsi. Le Saint-Concile défend que l'on place dans les églises aucune image qui s'inspire d'un dogme erroné et qui puisse égarer les simples. Il veut qu'on évite toute impureté, qu'on ne donne pas aux images des attraits provocants. Pour assurer le respect de ces décisions, le Saint-Concile défend de placer en aucun lieu, et même dans les églises qui ne sont pas assujetties à la visite de l'ordinaire, aucune image insolite, à moins que l'évêque ne l'ait approuvée. Donc voici, je dirais, les propos sur l'art qui ont été tenus au Concile de Trente. Les réponses, pour répondre à ces prescriptions qui finalement semblaient sévères, l'Église a commencé par proscrire en premier lieu la nudité dans l'art religieux. Et donc c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Alors, s'il vous plaît, merci. Attendez, c'est sur le devant, de l'autre côté. Alors, là nous sommes en 1563, donc lors de la dernière session. Déjà en 1559, Paul IV, en fait, sans attendre la fin du concile, avait déjà demandé à des artistes de voiler quelques figures nues, notamment dans le jugement dernier de Michel-Ange, qu'on a pas seulement ici, de même que dans la voûte de la Sixtine. Or, il se trouve que cette voûte, curieusement, enfin, je parle de la voûte, a été peinte en 1508-1512, et le mur du jugement dernier dans les années 36-41. Donc, 50 ans plus tôt, ce que les papes commandaient pour donc la chapelle Sixtine était maintenant prohibé. De même, Pie V, en 1566, fait voiler d'autres figures par d'autres artistes, et Clément VII renonçait carrément aux demi-mesures qui étaient donc de voiler certaines nudités peintes par les artistes, avait résolu d'effacer complètement la Sixtine, le jugement dernier et la voûte. Et ce n'est que grâce à une supplique de l'Académie de Saint-Luc, donc qui est la corporation des peintres, que la catastrophe fut évitée finalement. Alors, donc, chose étonnante, donc, ce que des papes avaient de commandé, donc, jugeant comme digne de la Sixtine, voulait être détruit, 50 ans plus tard. Donc, en quelques années, l'esprit de l'Église s'était profondément modifié, c'est ce qu'il faut retenir, et tous les livres écrits à cette époque sur l'art religieux, après le Concile de Trente, sont unanimes à proscrire la nudité, donc, dans toute forme d'art religieux, que ce soit sculpture ou peinture. Saint Charles Borromée, en qui s'incarne l'esprit du Concile, fit d'ailleurs disparaître tout le nu partout où il le rencontra, donc dans les églises, chapelles, oratoires, enfin tous les sanctuaires. Par exemple, un évêque, l'évêque de Gand, qui fut par la suite archevêque de Malines, fit brûler tous les tableaux et détruire toutes les statues qui, à ses yeux, étaient trop peu pudiques. Voilà exactement ce que préconisaient donc les ecclésiastiques juste après le Concile de Trente. Le jésuite Bellarmine persuada d'ailleurs un de ses amis de faire voiler toutes les nudités de ses tableaux qu'il possédait dans une collection, et les artistes vont suivre. C'est ce que nous allons voir tout au long de ce chapitre, donc sur l'art religieux au XVIIe. Les artistes vont suivre... finalement, avec beaucoup de fidélité, les prescriptions de l'Église. Alors, un sculpteur florentin du XVIe, qui est mort donc en 1589, désavoue à la fin de sa vie les œuvres de sa jeunesse, et il a, dans une lettre qu'il a adressée à l'Académie de Florence, il invita tous les artistes à renoncer également à ces figures nues qui pouvaient émouvoir dangereusement l'imagination. Et voici ce qu'il disait. On peut fermer un mauvais livre, dit-il, mais les statues s'offrent sans cesse à tous les regards. Donc voici cet état d'esprit qui omniprésent, et dans l'Église et chez les artistes. Donc ce que les yeux les yeux, disons, au XVIIe, commencent à découvrir tout d'un coup dans le corps humain la nature déchue, alors qu'au moment de la Renaissance, eh bien, ce n'était plutôt que la beauté de Dieu qui était exprimée dans l'anatomie humaine. Et donc, voilà, je dirais un renversement de tendance en très peu d'années, en 50 ans environ. C'est donc pour l'art le début d'une période d'austérité, j'entends pour l'art religieux, bien entendu. Et alors, la question que l'on peut se poser, c'est quels sont, je dirais, avec la découverte de la Renaissance, faite par des artistes aussi célèbres que Donatello, qui était sculpteur florentin du XVe, ou Verrocchio, sculpteur florentin de la fin du XVe siècle, ou même Léonard, Michel-Ange, Raphaël, pour ne citer que les plus grands. Toutes ces découvertes des artistes donc du XVe ou vers 1500, que vont-elles devenir finalement, puisque c'est une conquête de l'anatomie et de la perspective qui sont les caractéristiques de la Renaissance. Alors, quelles vont être les formes donc de cette nouvelle art religieux. Finalement, les artistes, dès la Renaissance, ont copié la nudité antique, donc c'est également aussi une question. Peut-on détruire toutes les sculptures de l'Antiquité gréco-romaine ? De même, les artistes, à partir des décorations du Vatican, notamment la Sixtine, Michel-Ange, ou toutes les chambres de Raphaël, donc ce qu'on appelle les stanze, tous les artistes du XVIe copient bien entendu Michel-Ange et Raphaël. Alors peut-on détruire toutes les fresques donc de Michel-Ange et de Raphaël ? Peut-on détruire aussi toutes les sculptures donc gréco-romaines ? Finalement, les artistes peuvent-ils renoncer à leur science ? Finalement, c'est la grande question. Et alors, la conclusion, ou plutôt la solution heureuse qui est trouvée, c'est que d'un accord tacite, l'Église et les artistes vont réserver le nu au domaine de la fable antique, donc de la mythologie. Et par contre, pour tout ce qui est religieux, il y aura donc interdiction de représenter le nu. Effectivement, supprimer le nu, par exemple, ou supprimer la mythologie, aurait été équivalent, pardon, à chasser des esprits ou des imaginations, par exemple les textes d'Homère, de Virgile, ou exorciser les dieux, ce qui aurait été impossible. Et puis après tout, l'Église aimait aussi l'Antiquité, donc je crois que c'était quelque chose d'assez difficile. Il suffirait de citer le fait que Fénelon se reposait en lisant l'Iliade et l'Odyssée, hein, pour bien apprécier, je dirais, pour mesurer le dilemme. Alors, finalement, par exemple, dès 1600, nous avons aussi des princes de l'Église qui commandent à des artistes des thèmes extrêmement païens, mythologiques. Il suffit de parler du cardinal Farnèse, qui, en son palais Farnèse, donc à Rome, a commandé au Carrache les amours des dieux. Alors, question, donc, puisque dans les années 63, à partir des années 63, après le concile, il y a donc interdiction de présenter le nu dans la peinture religieuse, comment est-ce qu'un cardinal peut commander les amours des dieux ? Et est-ce que vous pourriez me passer pendant les diapositives qui vont suivre, je pense qu'il illustre encore le... Alors oui, c'était juste un détail du jugement dernier. Donc là, il y a beaucoup de corps donc, qui ont été voilés donc, par Daniel da Volterra, donc un artiste florentin fin 16e, donc sur la demande des papes donc, pour le jugement dernier. Il faut aussi se représenter, je fais juste une petite parenthèse, ce jugement dernier commandé dans les années 36-41 par Clément VII, en fait correspond donc aux années, je dirais, les plus intenses de la lutte entre protestants et catholiques. Et Clément VII avait en quelque sorte un pressentiment donc d'apocalypse, et c'est aussi dans cet état d'esprit que le jugement dernier donc a été commandé. Alors je pense qu'il y a d'autres diapositives qui illustrent donc ces propos donc sur le nu dans l'art du XVIe. Bon là ici c'est le Christ qui apparaît plutôt comme un Hercule vengeur, comme un Christ de bonté. Et puis je crois qu'il y a encore... Bon là c'est juste... Donc la voûte de la Sixtine où on voit justement donc tous les ignudis, c'est-à-dire les jeunes hommes qui sont nus, qui sont entre le registre des prophètes et des civils, et puis tous les panneaux qui relatent donc l'histoire de la Genèse, la création. Alors donc, ou même la figure d'Adam, la création d'Adam. Donc quand on pense qu'effectivement il y avait, grâce à l'Académie de Saint-Luc, donc la fraise donc a pu être sauvée. Alors autre diapositive, je pense qu'il s'agit d'un dessin de Michel-Ange, je veux dire, qui parle de lui-même. C'est-à-dire, est-ce que les artistes pouvaient renoncer donc à toutes ces conquêtes? Donc juste un exemple. Je crois qu'il y a encore d'autres choses. Merci. ou la célèbre Pietà de Michel-Ange, bien entendu, qui est à Saint-Pierre de Rome. Alors voilà donc cette fameuse galerie des Carrache, des frères Carrache, commandée par le cardinal Farnèse. Donc les Amours des Dieux, donc commandées par le cardinal Farnèse, reflètent davantage, je dirais, le triomphe du paganisme ou de la nudité que donc un esprit religieux proprement tridentin. En fait, ici, il y a eu quelques controverses ou quelques subtilités d'esprit à propos de cet ensemble. Suivant Bellori, qui est un historien d'art fameux du XVIIe, donc italien, Monseigneur Agucci, qui était l'ami du cardinal Farnèse, avait donné à Annibal Carrache le programme iconographique de cette galerie. Et Dixit, pour montrer les dangers de la passion. Alors justement, je dirais, ce serait donc plutôt une vue d'esprit. Est-ce que tous ces amours des dieux, lorsqu'on les voit, peuvent faire triompher l'amour céleste ou l'amour terrestre, et peuvent-ils évoquer, des pensées morales, hein? C'est une question qui est plutôt curieuse. Alors, en fait, la contre-réforme désire donc à la volonté d'un art religieux irréprochable. Par contre, elle laisse donc à l'artiste, hors du sanctuaire, toute liberté, et c'est ce que nous voyons ici dans cette fameuse donc, galerie des Carrache. Alors, il me semble que j'ai un détail pour le panneau central, qui donc représente le triomphe de Bacchus. Donc, le triomphe du paganisme, comme le dit Émile Malle. Alors, autre chose, encore, c'est... chez le cardinal Borghese, je vous remercie. Chez le cardinal Borghese, voici ici un groupe sculpté du Bernin qui est fameux, qui illustre ses métamorphoses d'Ovide, c'est-à-dire Apollon poursuivant Daphné, et Daphné se transformant en laurier pour échapper donc à la séduité d'Apollon. Alors en fait, ce groupe sculpté était chez le cardinal Borghese, et bien sûr a provoqué étonnement, et le cardinal Barberini, le futur Urbain VIII, a expliqué la présence de ce groupe par deux vers, que voici: l'amant, poursuivant une forme enchanteresse qui le fuit, ne trouve dans sa main, quand il l'atteint, que des feuilles mortes ou des fruits amers. Donc voici, je dirais encore une fois, donc ces jeux d'esprit chez donc des grands princes de l'Église. Eh bien, ils se réservaient donc dans leur palais des thèmes ou des peintures ou sculptures donc avec des thèmes mythologiques. Donc en fait, à la fin du Concile de Trente, tout le monde est d'accord, il y a l'art religieux, disons, se sépare de l'art profane, et c'est donc finalement, l'art religieux va devenir plus décent, et la fable ou la mythologie seront réservées, disons, au palais, au décor des palais. Alors la contre-réforme condamne donc également d'autres aspects dans l'art religieux. Elle condamne les épisodes oiseux et les personnages inutiles. Il pouvait exister donc à côté de ces nudités donc, qui pouvaient choquer les yeux des fidèles ou de l'esprit donc, au moment de la contre-réforme. Il pouvait exister également d'autres sortes d'inconvenances dans les œuvres d'art destinées aux églises, c'est-à-dire un manque de respect ou encore un sujet qui était sacrifié à un décor ou à des épisodes inutiles. Il semble que j'ai une autre diapositive. Merci. Alors, c'est un tableau qui est au Louvre, qui est donc de Paul Véronèse. Je vous rappelle, qui évoque les noces de Cana, bien entendu. Je vous rappelle que Paul Véronèse est comparu à Venise devant le Saint-Office à plusieurs reprises. Le Saint-Office lui a fait des reproches à propos de ses saintes scènes. Et je crois aussi à propos de ces noces de Cana, malheureusement je n'ai pas de scène à vous présenter, donc je vous présente ce sujet. Et voici ce qu'on lui demande au Saint-Office. On lui demande: que signifie ce serviteur qui saigne du nez? Que signifient ces gens armés, habillés à la mode d'Allemagne et tenant une hallebarde à la main? Réponse de Paul Véronèse: lorsque dans un tableau il me reste un peu d'espace, je l'orne de figures d'invention. Bien entendu, je dirais, il répond à l'artiste, et les ecclésiastiques lui posent des questions donc sur un autre plan. Il continue ainsi: est-ce qu'il vous paraît convenable, reprend le juge implacable, dans la scène de Notre Seigneur, de représenter des bouffons, des Allemands ivres, des nains et autres niaiseries? Il répond non, sans doute. Pourquoi l'avez-vous donc fait? Je l'ai fait en supposant que ces gens sont hors du lieu où se trouve notre Seigneur. Voici ce genre de dialogue qui existait donc entre Paul Véronèse et Saint-Office. Il se trouve que Paul Véronèse a été condamné à plusieurs reprises et il a été condamné à corriger ses tableaux pendant 3 mois à ses dépens. Et donc beaucoup de ces scènes, où, comme ici les noces de Cana, où on a plutôt l'impression d'un banquet, d'un festin donc, dans la Venise du XVIe, en fait des noces de Cana, seul le Christ apparaît auréolé au centre de la composition, mais il y a un tel tumulte que nous sommes très loin, par exemple, des compositions du XVe, donc beaucoup plus sereines, comme celle de Frangelico, Piero della Francesca, ou même Léonard de Vinci, ou Botticelli, ou d'autres artistes encore. Autre aspect, dans un tableau religieux, en fait, rien ne doit éloigner la pensée du sujet, et on pourrait établir une comparaison, un parallèle avec les exercices spirituels de Saint Ignace, donc de Loyola, puisque un tableau ne doit absolument pas détourner l'attention du spectateur. Pour Lebrun, qui est donc un artiste du XVIIe français qui a travaillé à Versailles, pour Fouquet et pour Versailles, eh bien pour lui, la crucifixion idéale, c'est celle qui présente uniquement le Christ en croix, entouré de Marie et de Saint Jean, sans aucun autre détail. Nous verrons tout à l'heure qu'il y aura d'autres aspects pour les crucifixions et la Marie au pied de la croix. Alors, autre chose, s'il vous plaît, merci. Au XVIIe, un artiste français qui s'appelle Louis de Boulogne, a donné une conférence à l'Académie royale de peinture et sculpture et il a critiqué très vivement ce tableau du Titien qui est également conservé au Louvre et qui s'intitule La Vierge au lapin, et il a donc critiqué la présence du berger en gardant ses moutons ou son troupeau, donc donnant un côté pastoral ou presque bucolique, le lapin qui finalement est inutile, et puis le paysage au fond donc du tableau. Dans un tableau destiné à l'autel, dit-il, il ne faut rien mettre d'étranger ou de capricieux qui puisse distraire le contemplatif. Finalement, donc, dans cet esprit dit tridentin, tout ce qui est en dehors du sujet donc religieux est superflu et à bannir. Alors, nous sommes très loin, par exemple, dans ce genre de représentation de la Vierge à l'enfant, des représentations du XVe siècle, comme le Maître de Flémal pour les Flandres, ou Jean Fouquet pour la France, ou encore Gozzoli ou Angelico, donc pour l'Italie. En fait, la religieuse du XVIIe devient un art sévère, qui est concentré, extrêmement donc concentré, ramassé sur lui-même, extrêmement dense, et qui est un sujet de méditation, donc, pour le chrétien, sur les mystères du salut. En fait, c'est la grandeur de l'Évangile qui doit émouvoir, et non point la beauté de la nature que les artistes de la Renaissance recherchaient, bien sûr, dans un esprit aussi néo-platonicien et d'humanisme. Par exemple, on peut imaginer que dans les presbytères de campagne, lorsqu'on trouvait une gravure, la gravure d'un tableau de Guido Reni, donc artiste italien du XVIIe, ou de Philippe de Champaigne, ou d'Eustache Le Sueur, encore français XVIIe, eh bien c'était finalement l'art religieux irréprochable, même si on pouvait avoir des tableaux, une gravure suffisait amplement donc à évoquer cet aspect. Autre conséquence donc de toutes ces sévérités, de l'art religieux vont se détacher donc le paysage, la nature morte et les scènes familières. Alors, je crois que j'ai... Voilà, merci. Les paysages à vous présenter. Ah oui, non, du tout. C'est très bien, merci. Donc, pour le paysage, il y a un aspect quand même à préciser, puisque désormais, nature morte, scène familière vont être complètement, je dirais, différenciées de l'art religieux. Pour le paysage, on peut quand même néanmoins trouver certains tableaux qui présentent encore un thème religieux, mais qu'il est nécessaire de révéler, puisqu'il n'est pas toujours apparent. Ici, c'est un paysage, donc apparemment de naufrage, mais il s'agit tout simplement du naufrage de Jonas. C'est un artiste hollandais du XVIIe, il s'appelle Paul Bril, et qui d'ailleurs travaille à Rome, donc dans ce milieu international qu'est Rome au début du XVIIe, avec des artistes des Flandres, de France et également d'Espagne. Donc le naufrage de Jonas, donc illustrant donc un passage de l'Ancien Testament, de même que le tableau suivant, c'est un tableau d'Annibal Carrache. Nous avons vu tout à l'heure Carrache à propos de la galerie Farnèse. Voilà ici donc un paysage avec bien sûr la fuite en Égypte qui est évoquée, mais nous allons voir tout à l'heure dans d'autres paysages la fuite en Égypte qui est complètement reléguée dans un angle du tableau. Ici, c'est un paysage de la campagne romaine, donc qui est assez doux, enfin assez serein. Et peu à peu, toutes les scènes religieuses vont diminuer dans l'espace du paysage et vont finalement peu à peu disparaître. Alors, autre tableau évoquant également la fuite en Égypte. Bon, cette photo est très mauvaise, mais justement, la fuite en Égypte est ici en bas à droite. Et donc, nous avons un paysage avec pêcheurs et bergers. Les bergers, nous apercevons un petit peu plus loin. Et puis, donc, un paysage un petit peu donc, de la campagne romaine encore. Et puis, également, un autre paysagiste du XVIIe, célèbre, Claude Gelée dit le Lorrain. Ici, c'est l'embarquement de Sainte-Paul. Et en fait, la scène religieuse est très peu décelable. Finalement, Claude Gelée dit le Lorrain illustre très souvent des passages de l'Iliade et l'Odyssée, où ici, bon, l'embarquement de Sainte-Paul, mais toujours dans ces cadres un petit peu de port, de soleil couchant. Et finalement, ce sont toujours le même genre de paysages. Alors, il faut voir par contre un paysagiste hollandais qui va se détacher dès le XVIIe. Voilà un exemple de paysage complètement profane. Ici, c'est Ruisdael, donc pour la Hollande. Bon, la Hollande a un développement un petit peu à part, puisque la Hollande donc, se sépare des Flandres, seconde moitié du XVIe siècle, et que comme la Hollande est la Hollande est pratiquement passée entièrement donc aux protestants, il y a de moins en moins de scènes religieuses, donc ici le paysage se développe davantage en Hollande, c'est peut-être un petit peu, enfin disons le paysage profane, c'est peut-être un petit peu logique aussi. Autre point, l'Église va demander donc à l'art religieux élévation et noblesse dans la plupart des œuvres. Autre façon donc de manquer à ses yeux aux règles de la contre-réforme, c'est donc manque de noblesse pour les différents personnages évangéliques. Par trois fois, l'Église va refuser des tableaux au Caravage. Donc elle va être très sévère, donc trois œuvres refusées. Une œuvre que je ne vous présente pas tout de suite, que nous verrons tout à l'heure, qui est « La Vierge et l'enfant écrasant le serpent ». Par contre, ici, ce tableau, donc la mort de la Vierge, qui est conservé au Louvre et qui a été destiné à Santa Maria della Scala, donc à Rome. Et ce tableau a été condamné parce que, pour l'Église, la Vierge n'était qu'une femme morte et déjà enflée, donc d'une femme noyée, avec donc les pieds, les jambes complètement gonflées, le corps gonflé, et donc un aspect extrêmement macabre qui manquait de respect donc pour la Vierge Marie. Selon Bellori, donc toujours historien du XVIIe, historien d'art du XVIIe, il a renchéri en disant que la scène était représentée d'une façon basse, donc ce qui explique justement ce refus de l'Église donc de ce tableau. Autre tableau qui pouvait donc choquer aussi les contemporains ou disons les ecclésiastiques, c'est un Saint Matthieu qui a été commandé pour Saint-Louis des Français, qui évoque donc dans un cycle consacré à Saint-Matthieu, en trois tableaux, la vocation de Saint-Matthieu, qui était collecteur d'impôts, l'inspiration de Saint-Matthieu et son martyr, donc tous trois réalisés par le Caravage. Eh bien, le Caravage a dû refaire son Saint-Matthieu. Celui que je vous présente est le Saint-Matthieu qui est actuellement en place, donc dans l'église Saint-Louis des Français, qui est la paroisse des Français à Rome. Et le Saint-Matthieu qui a été, disons, refusé, est conservé aujourd'hui au musée de Berlin. Et voici ce que disait Bellori. Eh bien, dans le Saint-Matthieu refusé, que je n'ai pas malheureusement à vous présenter, eh bien, on lui reprochait de montrer grossièrement ses pieds. Donc ici, d'ailleurs, on a quelque chose qui est assez aussi choquant pour un esprit religieux, je dirais, du XVIIe, puisque Saint Matthieu apparaît comme un paysan assez fruste ou un pêcheur, avec donc toujours ce côté de prédilection chez Caravage qui est privilégié, disons, un art un art religieux en faveur des plus pauvres et de représenter donc les personnages les plus pauvres, les plus démunis. Ici, en plus, l'ange qui apparaît, qui est l'ange qui évoque l'inspiration, donc l'ange de l'inspiration pour Saint Matthieu, qui est d'ailleurs son, son symbole. C'est un modèle que l'on retrouve dans beaucoup de tableaux du Caravage, qui est d'ailleurs plutôt un modèle de mauvais garçon, de taverne ou de mauvais lieu, que l'on retrouve dans tous les tableaux du Caravage et qui vont d'ailleurs se propager dans tout le mouvement du caravagisme en Europe, c'est-à-dire de 1600 à 1640, 1650 environ, ça sera la fin du caravagisme. Ce sont des tableaux qui datent des années 1600, hein, ces tableaux ils sont donc très tôt dans le siècle. Et puis, autre tableau qui a pu être critiqué aussi, c'est cette fameuse Vierge des pèlerins du Caravage, qui est aujourd'hui à Rome, à Sant'Agostino, qui aussi a pu choquer, puisque la Vierge est représentée comme une jeune matrone romaine, mais néanmoins, elle est pieds nus, ce qui peut paraître extrêmement choquant. De plus, les pèlerins que nous voyons sont également pieds nus, agenouillés, les pieds sales, enfin, je veux dire, le Caravage et les caravagesques n'hésitent pas à montrer cet aspect de pauvreté. L'esprit du Caravage pouvait choquer par... bien sûr, le procédé qui était fait aussi d'éclairage extrêmement violent et qui correspondait, qui était très loin, par exemple, des Vierges de Raphaël, pleines de sérénité et de douceur. Il faut aussi reconnaître que la sévérité de l'Église envers le Caravage correspondait aussi à une certaine crainte, puisque pour l'Église, le Caravage était trop insolite, présentait un caractère trop insolite, trop original, et toute la tradition chrétienne avait été faite de beauté et de noblesse, et avec le Caravage, nous sommes très loin de cet esprit, ne serait-ce même que, par exemple, les dégradations du mur, le crépi est complètement dégradé, donc aussi exemple donc de choc pour, disons, de choc pour les ecclésiastiques. Il faut aussi voir que le Caravage va faire école et son art va se répandre un petit peu dans toute l'Europe, notamment avec, par exemple, le tableau suivant, qui est celui de Ribera, qui est influencé par le Caravage, qui présente ici Saint-André, reconnaissable à sa croix, donc en forme de X, hein, la croix de Saint-André, qui fait partie d'une série des 12 apôtres, qui est conservée au Prado, et où Ribera donc traite les apôtres sans aucune complaisance. Ici, en l'occurrence, un vieillard extrêmement décharné, qui doit aussi certainement quelques traits donc au Gréco, et puis donc cet éclairage toujours extrêmement violent qui est donc la caractéristique du Caravage et qui se répand donc encore une fois. Ribera aussi a beaucoup de liens avec l'Italie, notamment par Naples, puisque c'est le royaume d'Aragon et de Naples. Et puis autre artiste pour changer un petit peu, quitter le sud, Rembrandt, dans la famille du menuisier ici, nous avons aussi cet éclairage extrêmement curieux, fait d'une lumière concentrée exclusivement sur la Sainte Famille. En fait, la Sainte Famille, c'est... En fait, on aperçoit Saint-Joseph en train de travailler, donc, ses travaux de charpentier, et puis donc la Vierge, un enfant, avec un philosophe, je pense. Alors, voici donc ce que condamne l'Église, donc c'est... ce que cherche l'Église, c'est-à-dire élévation et noblesse. Autre aspect, les traditions apocryphes qui, en fait, étaient en vigueur dans tout l'art du 15e, 16e ou même au Moyen-Âge, finalement vont être revues et corrigées par le Concile de Trente. Le Concile de Trente refuse que des œuvres représentent des dogmes erronés. Et bien sûr, quelle attitude adopter pour certains détails apocryphes, notamment ceux de la légende dorée qui est célèbre, donc de Jacques de Voragine, puisqu'il y a certains saints dont l'histoire est complètement, je pense, inventée. Mais néanmoins, puisqu'ils font partie de la tradition, il y avait donc une contradiction ou disons une difficulté. Toutes les années qui vont suivre la fin du Concile, il existe en réalité un certain zèle de censure ecclésiastique qui va peu à peu s'amoindrir, diminuer. Un exemple, tout à l'heure je parlais de crucifixion, c'est ce que nous allons voir maintenant. Au Moyen-Âge, des crucifixions, nous on voyait très très souvent donc la Vierge évanouie au pied de la croix. Ici je vous présente non pas la Vierge évanouie, mais enfin disons assise et en prière ou en pleurs avec la figure de Saint Jean. Donc c'est un tableau qui date de la seconde moitié du XIVe siècle, qui est conservé à Caen et qui est dû à Barnaba da Modène. Eh bien, je n'ai pas malheureusement de scène plus plus éloquente, avec la Vierge complètement évanouie au pied de la croix. Mais ce thème de la Vierge évanouie paraissait, donc, était jugé inconvenante et indigne. Et voici ce que certains auteurs de l'époque écrivaient. Est-il dit dans l'Évangile que la Vierge était assise ou qu'elle était étendue au pied de la croix? Non, il est dit qu'elle était debout, stabat. Voilà donc les controverses, autre aspect de la controverse, donc au moment du concile. Saint Ambroise, de même, écrivait, je lis dans l'Évangile qu'elle s'est tenue debout, je ne lis pas qu'elle ait pleuré. Donc voici aussi donc autre aspect de la question. Donc un autre tableau de Mantegna, cette fois-ci, donc là nous sommes au XVe siècle, chez un artiste qui est padouan, qui représente, qui est au Louvre, en fait qui est un tout petit panneau qui fait partie d'un ensemble plus important, et qui représente le calvaire, puisque nous avons le Christ en croix et les deux larrons, la vision de la ville de Jérusalem au loin, enfin donc dans le fond du tableau, les soldats romains en train de jouer la tunique du Christ au dé, donc sur le bouclier à droite, et la Vierge complètement soutenue, donc défaillante, évanouie, mais soutenue par les saintes femmes. Donc voici ce genre de scène jugée complètement indigne au moment du Concile de Trente. J'ai encore un autre exemple, là, qui va être un contre-exemple pour le XVe siècle. Vous allez voir, ici nous sommes dans les Flandres, avec Hugo van der Goes. Et la difficulté en histoire de l'art, c'est que finalement, si nous pouvons présenter toute une série d'œuvres, que ce soit en peinture ou en sculpture, qui donc renchérissent pour établir en quelque sorte un système, je le dirais entre guillemets, il y a toujours un contre-exemple. Ici, dans les Flandres, les artistes flamands sont beaucoup plus sensible au pathétique et à l'expressionnisme, et en fait voilà donc un contre-exemple. La Vierge ici n'est pas du tout défaillante, elle est au pied de la croix, stabat, mais nous sommes au XVe siècle, donc voilà une petite contradiction, me direz-vous. Alors finalement, à Rome, à cause de cette prescription, donc la Vierge doit être stabat, debout, au pied de la croix, et bien beaucoup de tableaux vont être ôtés, certains vont être brûlés ou détruits, et il va y avoir aussi des refus de publication de certaines gravures d'après des tableaux, qui refus donc par les autorités ecclésiastiques. Au XVIIe, il y a beaucoup de très nombreuses vierges qui sont représentées debout sur le calvaire, que ce soit en France, dans les Flandres, en Espagne. Eh bien, par exemple, Rubens ou Van Dyck ou Philippe de Champaigne, comme son nom l'indique, qui est originaire des Flandres, même s'il est classé dans l'école française, représente donc la Vierge debout au pied du calvaire. On trouve également, parallèlement à ce thème, toujours donc la Vierge évanouie aussi au pied de la croix, avec des artistes italiens comme Lanfranco ou Simon Vouet ou François Perrier, donc qui sont des artistes français du XVIIe. Je crois que j'ai encore d'autres exemples pour alors Grunewald ici, donc célèbre retable d'Isenheim qui est à Colmar, c'est tout début du XVIe siècle. Ici, la Vierge est soutenue par Saint Jean, et puis de l'autre côté, il y a Saint Jean-Baptiste, pardon, donc les deux Saint Jean, donc qui encadrent la croix, et la Madeleine, donc qui est en prière, enfin plutôt en prière, en pleurs, donc au pied de la croix. Mais ce sont des thèmes qui correspondent, encore une fois ici, donc je pense au pathétisme, à l'expressionnisme. Ici, nous sommes dans l'école allemande avec Grunewald. C'est un tableau qui est extraordinaire, qui est à Colmar, qui vaut, je crois, plus que le déplacement, et qui s'articule en différents panneaux, qui s'ouvrent en plusieurs panneaux et qui relate donc toutes les scènes de la Passion. Alors, je crois que j'ai un détail pour la scène centrale. Voilà, justement, on voit beaucoup mieux ici. Donc, la Vierge soutenue par Saint Jean, et puis le côté pathétique et expressionniste de la Madeleine avec des cheveux, enfin je veux dire, extrêmement longs, et puis même la mise au tombeau dans la près d'elle, où la souffrance qui se lit sur le corps donc, du Christ en croix, avec le bois de la croix qui est complètement tordu et les doigts crispés, enfin donc expressionnisme allemand, donc tout à fait caractéristique. Néanmoins, l'Église va être beaucoup moins sévère qu'elle avait paru devoir l'être d'abord, et finalement, il y a certains mécontentements parmi des jésuites, notamment un jésuite, le jésuite Mazelli. Voici ce qu'il disait. « Je ne sais comment peut s'excuser la grave négligence de ceux qui sont chargés d'appliquer les décrets du Concile de Trente sur les images. » Voilà, donc, je dirais une petite remarque déjà sur donc, les décisions, ou plutôt, disons, les décisions du Concile qui ne sont pas toujours suivies. Finalement, l'ancienne iconographie donc médiévale de la légende dorée va exister parallèlement à la nouvelle qui va être issue de la contre-réforme, et c'est ce que nous verrons un petit peu plus loin donc, dans nos conférences. En Espagne, il y a même des des artistes qui sont nommés inspecteurs par le Saint-Office, donc pour surveiller le bon déroulement, je dirais, des représentations religieuses, notamment le beau-père de Velázquez, qui s'appelle Pacheco. La résultante de tout ceci, c'est qu'il y a un nouvel esprit qui entre dans l'art au XVIIe et qui est en contradiction ou extrêmement différent, en tout cas, de l'esprit de l'art chrétien de la Renaissance. L'art chrétien de la Renaissance était un art serein, qui était extrêmement serein et calme, donc dans la foi, donc sûr de lui, sans controverse, sans débat intérieur. Au XVIIe, il y a une lutte contre l'hérésie qui est permanente et qui concrétise par un élan vers Dieu dans la plupart des œuvres, où l'on représente très fréquemment la mort, la douleur, le martyr, souvent dans toute son horreur d'ailleurs, des squelettes sur le tombeau pour évoquer à chaque instant donc, les fins dernières. Donc l'art du XVIIe siècle, en quelque sorte, remonte un petit peu dans le temps et rejoint presque les représentations des derniers siècles du Moyen-Âge, notamment du gothique. Il faut aussi remarquer qu'au XVIIe, contrairement à ce que des historiens d'art ont pu noter, ou plutôt n'ont pas noté au XIXe, je pense notamment à Fromentin, qui était donc peintre, romancier, mais également historien d'art, et dans un ouvrage qui s'intitule « Les maîtres d'autrefois », s'interrogeait pas une seule fois, un seul instant, sur l'appartenance, disons, sur l'appartenance à l'église catholique de Rubens, et il parle donc de Rubens sans se poser la question, était-il ou non catholique, en tout cas, disons, pratiquant. Or, Rubens se fait le héros de la contre-réforme dans les Flandres, et c'est un petit peu dommage quand même de passer à côté de l'essentiel, surtout lorsqu'on sait que Rubens assistait à la messe tous les matins avant de se mettre au travail. Donc voilà un exemple d'artiste extrêmement docile à l'enseignement de l'Église. Mais tous ces artistes beaucoup d'artistes sont extrêmement pratiquants tout au long du XVIIe. Il suffit de lire tous les historiens d'art du XVIIe, les textes donc d'époque, que ce soit des textes italiens comme Baldinucci, Bellori, Pascoli, Malvasia et ainsi de suite, et pour la France notamment Guillet de Saint-Georges, Félibien, Descamps, ou en Espagne, Cean Bermudez, Pacheco. Tous ces historiens d'art relatent que les artistes, peintres et sculpteurs, étaient donc des chrétiens réguliers et d'autres de très grande piété. J'ai parlé de Rubens, mais par exemple Le Bernin communiait deux fois par semaine, faisait une retraite annuelle selon les exercices spirituels de Saint-Ignace, chaque année, et puis s'entretenait de la mort très fréquemment avec un de ses neveux, qui était oratorien. Donc, autre exemple, Le Guerchin, autre artiste italien du XVIIe, chaque jour, une heure d'oraison, suivie d'une messe, il travaillait, et ensuite, à la fin du jour, il partait prier dans une église, et chaque vendredi, il assistait à des exercices de la confrérie de la bonne mort. Nous pourrions multiplier les exemples de ce genre. Voici ce qu'il disait, toujours pour Le Guerchin. « Ne peignez jamais, disait-il à ses élèves, des tableaux trop libres. Dieu laisse leurs auteurs dans le purgatoire aussi longtemps que durent ses œuvres dangereuses. » Donc, autre remarque d'artiste italien, toujours italien, Crespi, c'est une dynastie d'artistes, Luigi Crespi parle à propos de son père, voici ce qu'il dit, « Mon père, Giuseppe Crespi, le peintre des sept sacrements, se levait avant le jour, il employait une heure à réciter ses prières, puis après avoir entendu la première messe dans l'église voisine, avec nous, ses fils, il se mettait au travail. » Je crois qu'il a eu d'ailleurs plusieurs enfants qui sont entrés dans les ordres. Mon père, ajoute-t-il, eut la consolation de voir son troisième fils prendre lui aussi la robe de Saint-François. Nous pourrions encore multiplier les exemples en Italie. Carlo Dolci appartenait à la confrérie de Saint-Benoît, avait un fils prêtre, Luca Giordano, a refusé de partir en Espagne travailler pour la cour d'Espagne sans son confesseur. Donc voilà, je veux dire, bon nombre d'exemples. Pour l'Italie, certains artistes priaient avant de représenter un peintre, disons, ou une série de tableaux consacrés à un peintre, priaient donc notamment le dominicain. Je prie Saint Janvier, dit-il dans une de ses lettres, de me faire la grâce de peindre dignement sa chapelle pour le dôme de Naples. Voilà, donc des artistes italiens. En France, c'est la même chose. Nous avons des artistes aussi divers que Jean Boucher de Bourges, ou Jacques Callot, qui a gravé, bien entendu, ou Michel Serres, Claude Deruet, Puget, artiste baroque, enfin sculpteur, Girardon, sculpteur, ou Lebrun, qui possédait sa chapelle, d'ailleurs, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Au XVIIIe, eh bien, nous avons le même esprit qui se prolonge. Bouchardon, sculpteur, qui a fait, je ne sais pas si vous connaissez, la fontaine de Grenelle, rue de Grenelle, non loin d'ici. Bouchardon a écrit à son fils « J'aurais succombé à l'affliction si Dieu ne m'avait secouru, en qui j'ai toujours mis toutes mes espérances. » Voici ce qu'il dit au moment de la mort de sa femme. Au XVIIe, il y a quelques artistes qui sont réformés, qui vont finalement se convertir au catholicisme, notamment Le Gros, qui est sculpteur, et se convertit au catholicisme à Rome. Et puis, je citerai un exemple d'artiste protestant, extrêmement religieux, extrêmement fidèle également à Calvin, qui a été privé de commande pour l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, qui existe toujours à Paris. Il a été privé de commande pour une série de tableaux, parce que la fabrique de Saint-Gervais-Saint-Protais craignait donc son appartenance donc à Calvin, au calvinisme, pardon. Et les tableaux ont été donnés à Le Sueur et à Champagne, donc catholiques. Pourtant, il était donc très religieux, et un de ses amis, qui désirait que Bourdon peigne le portrait de sa maîtresse. Bourdon, finalement, au lieu de peindre le portrait de sa maîtresse, lui envoie un Ecce Homo, et avec un petit billet, et voici ce qu'il lui dit. Voyez si cet objet est digne de votre cœur, et votre cœur de cet objet. Attachez-vous à lui et rejetez toute autre pensée. Voici ce que disait un protestant, donc au XVIIe. Donc on ne peut pas non plus critiquer systématiquement, par exemple, les artistes protestants qui peut-être ne peignent peut-être pas la Vierge évanouie ou Stabat au pied de la croix, mais qui néanmoins étaient quand même extrêmement religieux, extrêmement fervents. On pourrait multiplier bien sûr des exemples en Flandre, en Espagne, je crois que ce serait peut-être un petit peu superflu. Il y a aussi par contre beaucoup d'artistes qui sont dans les ordres, qui appartiennent à des ordres, qu'ils soient jésuites, carmes ou franciscains ou oratoriens. Ou autres. Beaucoup d'artistes également sont prêtres. En France, nous avons des artistes chez les Dominicains, chez les Chartreux, chez les Augustins, chez les Récollets, chez les Jésuites, les Capucins, donc qui sont célèbres. Pour continuer finalement, la conclusion, je dirais, de ce premier chapitre, c'est-à-dire sur l'art et donc l'art et les artistes, après le Concile de Trente, l'Église finalement reprend la direction de l'art, et c'est ce qu'il faut retenir. Tous les artistes chrétiens vont être imprégnés donc de l'enseignement de l'Église et vont donc se consacrer à ce genre d'œuvre, bien sûr pour lutter contre l'hérésie, qui est donc une lutte de chaque instant. Il faut aussi savoir que beaucoup d'artistes du XVIIe ont été dirigés par des théologiens, notamment je pense à Rubens, pour les jésuites d'Anvers, a reçu une commande d'une série de 39 tableaux illustrant scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et pour cette série de 39 tableaux, il a bien sûr fait appel à des docteurs de l'Église pour l'aider donc pour établir une cohérence dans le programme iconographique. La plupart du temps, lorsque des scènes de l'Ancien Testament sont représentées, ce sont en général des préfigurations du Nouveau Testament. Lorsque l'on voit un sacrifice d'Isaac, c'est bien sûr le sacrifice du Christ. Lorsque l'on voit le naufrage de Jonas, c'est bien sûr les trois jours de la Passion, et ainsi de suite. Donc on pourrait multiplier les exemples. En fait, ce que l'on a pu dire aussi au 19e, des historiens d'art du 19e, notamment, je pense toujours à Fromentin, dans Les Maîtres d'autrefois, disait que certains artistes ont trouvé leur inspiration dans des scènes religieuses. Je crois que c'est une idée qui est complètement erronée et fausse, puisque en fait, tous ces artistes du XVIIe étaient religieux et donc n'avaient pas besoin de chercher leur inspiration, puisqu'ils ne peignaient d'autres scènes que des scènes religieuses. Ils ne peignaient donc que des scènes religieuses, et donc il n'y a pas de manque d'inspiration comme des artistes du XIXe ou du XXe siècle peuvent le connaître. Alors finalement, quel caractère finalement l'Église du XVIIe va-t-elle donner à l'art religieux? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Premièrement, l'art et le protestantisme, je pense nous n'arriverons certainement sans doute pas à terminer de ce chapitre, donc nous prolongerons lors de la prochaine conférence. L'art et le protestantisme, donc la lutte de l'Église catholique contre le protestantisme, va trouver un reflet, un écho dans l'art, qui va donc prendre part à la controverse. Il faut bien imaginer que dans ces temps troublés, les protestants brisaient fréquemment les statues de la Vierge, brûlaient les crucifix, criblaient très fréquemment aussi de coups d'épée les images des saints, et quelquefois, comble de profanation ou d'hérésie, des tableaux, par exemple comme des tableaux représentant le calvaire, eh bien les tableaux étaient lacérés, notamment la figure du Christ, mais le mauvais larron seul restait intact. Ou des tableaux consacrés à Saint-Michel Archange, eh bien Saint-Michel Archange était lacéré également, mais le démon était respecté. Donc on voit, je dirais, une très grande violence de la part des protestants à l'encontre donc des images, des représentations religieuses. Il faut aussi ne pas oublier que la messe était tournée souvent en dérision en Allemagne, en Suisse, la présence réelle niée, la Vierge insultée, comme le Christ dans le prétoire, et finalement, il y avait une très grande détresse, j'imagine, donc dans l'Église catholique tout entière, mais également chez les artistes. Et voici ce que disait Sainte Thérèse dans ses larmes, je dirais, c'est les élans de charité. « Je donnerais 1000 fois ma vie, disait-elle, pour sauver une seule de ces âmes égarées. » Et elle supplie ses sœurs de prier pour que Dieu inspire les docteurs, donc les docteurs de l'Église, qui luttent contre ceux qui veulent condamner le Christ une seconde fois, c'est-à-dire par donc ces actes de violence. Clément VII, je vais parler tout à l'heure de Clément VII, qui donc a commandé le jugement dernier donc à Michel-Ange pour le mur du fond de la Sixtine, a vu le saccage donc de Rome par les bandes luthériennes et en même temps a assisté à la chute du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de l'Angleterre, qui peu à peu se sont donc détachés de l'Église pour embrasser donc la religion protestante, comme on l'appelait au XVIIe, la religion prétendue réformée, en tout cas dans les textes français. De même, les Turcs envahissaient le royaume chrétien de Hongrie, et Soliman avait paru sous les murs de Vienne, donc l'Église est extrêmement menacée. Donc, également très grande tristesse donc, dans ce milieu du XVIe siècle. Et il faut attendre, je pense, le début du XVIIe pour que l'Église, une fois un petit peu rassurée sur l'avenir, puisse de nouveau commander des œuvres donc, aux artistes. À partir du Concile de Trente, donc, avec l'aide des ordres religieux et surtout, essentiellement, je dirais, des jésuites qui ont contribué grandement donc, à la restauration de la foi, il y a eu bien sûr réaffirmation des dogmes de l'Église et puis également réforme d'elle-même et en même temps lutte contre donc, la réforme. Donc en fait, il y a, je dirais, trois aspects donc, dans cette contre-réforme, c'est une réforme de l'Église et puis donc réaffirmation des dogmes et lutte contre les protestants. Cette lutte contre le protestantisme donc, va être sa pensée pendant un siècle et demi jusqu'à la fin, je dirais, du XVIIIe pratiquement. Tous les grands livres catholiques de l'époque sont des livres de controverses. Je dirais, ce serait trop long de les citer, mais disons qu'il suffit d'évoquer Canisius, Bellarmine, dont j'ai déjà parlé, ou Bossuet, ou encore les Acta Sanctorum, donc, ou les Annales de Baronius, qui vont être des textes dont vont s'inspirer les artistes. L'art prend part à la controverse. Pourquoi ? Tout simplement parce que donc, les papes, les princes de l'Église vont commander, donc une fois les années donc, terribles passées, vont pouvoir de nouveau exercer une activité de mécénat à l'égard des artistes. Et l'art dont l'essence est, je dirais, la contemplation et l'amour ou la piété va être touchée donc par la controverse et quelquefois va même devenir une des formes de la controverse. Le caractère nouveau de la peinture et de la sculpture apparaît fin 16e, donc début 17e. Et on peut se poser la question pourquoi si tardivement, et je crois que c'est tout simplement parce que toutes ces années troublées du 16e, eh bien effectivement les papes étaient beaucoup plus préoccupés donc de contrecarrer, hein, donc de lutter contre l'hérésie plutôt que de commander des œuvres aux artistes. Premièrement, je dirais qu'il y a une lutte contre le protestantisme iconoclaste, puisque le protestantisme détruit les images et proscrit l'art religieux, eh bien l'Église catholique va multiplier les images et multiplier les œuvres d'art religieux. Le temple protestant étaient blanchis à la chaux, pratiquement aussi nus que la synagogue ou la mosquée de l'époque, eh bien, les églises vont au contraire déployer, je dirais, une extrême richesse, beaucoup d'ornements, et il va y avoir splendeur des couleurs, des marbres, des métaux précieux, du bronze, enfin tout ce qui peut contribuer donc à l'ornementation des églises. Donc à la nudité protestante, eh bien, l'église développe donc ornementation extrêmement abondante. Donc il va y avoir un amour de la richesse qui va également choquer quelquefois, notamment, je dirais, des amateurs d'art dépouillé du XVe siècle ou de la Renaissance, extrêmement sobre, notamment, je pense, en architecture. Eh bien, quelquefois, on a pu penser à une perversion du goût, et je crois qu'il faut plutôt y voir un système, c'est-à-dire que tout ce que l'hérésie niait, eh bien, la papauté va l'affirmer. La réponse des jésuites aux protestants, eh bien, c'est celle-ci. Les novateurs nous accusent de prodigalité dans l'ornement des églises. Ils ressemblent à Judas reprochant à Marie-Madeleine de verser des parfums sur la tête du Christ. Et puis, autre réponse, celle-ci, cette fois-ci de Molanus, toujours aux protestants. L'église est une image du ciel sur la terre. Dieu l'emplit tout entière. Comment ne pas l'orner de ce qu'il y a de plus précieux? Voici donc les réponses donc, des jésuites ou des prêtres, donc des ecclésiastiques, donc catholiques, aux protestants. Il va y avoir donc multiplication, fresques, tableaux, statues, lapis-lazuli, bronze, or, rien ne sera assez beau donc pour magnifier Dieu et ses sanctuaires. Alors, il me semble que j'ai d'autres... Ah oui, attendez, c'était toujours crucifixion, pardon, là c'est un... excusez-moi. C'est juste ici une crucifixion du XVIe siècle, enfin vers 1500, qui est à Florence, qui est due au Pérugin, qui est un élève de... qui est le maître de Raphaël, et justement celle-ci est extrêmement dépouillée. Elle est dans une église qui est consacrée à Santa Maria Maddalena dei Pazzi, qui correspond un petit peu à la Thérèse, la Thérèse d'Avila, mais Thérèse italienne. Donc, et ici nous avons donc la Vierge, effectivement, qui est debout au pied de la croix, avec la Madeleine et Saint-Jean, et puis deux religieux donc, qui sont autour. Donc ici, un exemple du XVIe siècle donc, d'art de la Renaissance, extrêmement calme, extrêmement serein, avec la Vierge. Donc, excusez-moi, là, c'est une parenthèse. Je ne sais pas si, ce qu'il y a. Ah oui, et puis voilà, un tableau de Van Dyck, donc flamand, donc du XVIIe toujours, où là, bien sûr, il y a un certain pathétisme, mais seule la Madeleine est donc en larmes, et la Vierge a bien sûr un visage extrêmement blême, extrêmement douloureux, avec aussi la figure de Saint Jean, mais néanmoins, elle est debout. Et puis, bien sûr, le ciel complètement déchiré, enfin, je veux dire, ça, c'est caractéristique, donc, de l'art religieux dans les Flandres, par exemple, ici, Van Dyck. Alors, autre... excusez-moi pour ces retards, ces deux diapositives. Alors voilà ici, exemple de décoration d'église extrêmement chargée. Nous sommes dans l'église mère de la Compagnie de Jésus à Rome, donc dans l'église du Jésus. Ici, c'est une fresque, toute une décoration de la voûte qui est faite à la fois de peinture, de stucs, de sculptures, de trompe-l'œil, et qui évoque la gloire du nom de Jésus, donc au moment pour la création donc de la Compagnie de Jésus. Alors, bien sûr, même cet art peut choquer, je comprends, lorsqu'on ne connaît peu le XVIIe, on peut être surpris par tant d'envolées lyriques, et quelquefois qui peuvent être jugées trop chargées, mais je crois encore une fois que cet art n'est pas du tout... au contraire, lorsqu'on apprend que justement il est au service de l'Église, on ne peut que l'aimer. Alors, autre... La richesse du Jésus, d'ailleurs, de cette église des jésuites, est devenue un argument et même un chapitre de la controverse religieuse, puisque c'est une église qui est assez splendide, et qui, finalement, choquait les protestants qui, eux, prenaient donc une pauvreté volontaire. Là, je vais vous présenter quelques exemples donc d'intérieur d'église, tant en Espagne qu'en Allemagne, ou en Bavière ou en France. Ici, c'est dans la cathédrale de Tolède, le transparent, l'hôtel du Transparente, qui date des années 1720-1730, donc début 18e. Et que fait l'artiste? Il s'agit de Narciso Tomé. Eh bien, il s'agit en fait de d'un immense donc ostensoir que vous apercevez en haut. Et le projet initial était que cet ostensoir soit visible dans le chœur, bien sûr, là où nous trouvons, mais aussi dans le déambulatoire derrière. Et je crois par contre le projet n'a pas été poursuivi pour le déambulatoire. Néanmoins, cet hôtel de transparent est extrêmement chargé. On a du mal à concevoir où sont les colonnes, des stucs, des sculptures, où ici bien sûr la Vierge à l'enfant, donc au-dessus du maître-autel, et puis donc une profusion de bronze, de marbre. On a l'impression que toutes ces formes, toutes ces matières s'enchevêtrent les unes dans les autres, et finalement créent une certaine émotion, bien entendu, puisque c'est un petit peu le but, mais également aussi déroute un petit peu le spectateur. Autre exemple donc d'église baroque. Ici, nous sommes en Allemagne et nous sommes aussi au 18e, au milieu du 18e, dans les années 50-60 environ. Et vous pardonnerez ma prononciation allemande, puisque je ne parle pas un mot d'allemand. C'est le maître-autel de l'église des 14 saints intercesseurs à Wiesereiligen. Excusez-moi. Et donc, qui est dû à Balthasar Neumann. Et ici, nous avons un plan au sol qui est extrêmement complexe, qui est une église en croix latine, donc comme les églises que nous connaissons, mais qui est faite d'une série d'ellipses, et de telle sorte qu'on ne... On perçoit un petit peu donc le déambulatoire ou les autres parties de l'église. Ici, nous sommes dans le chœur, et nous avons au centre donc ce maître-autel, 14 intercesseurs, avec au sommet, il me semble, une gloire, et l'enfant Jésus, je pense, donc qui surmonte cette espèce de maître-autel qui ressemble davantage à une chaise à porteur Louis XV qu'à un maître-autel quand vous le voyez comme ça pour la première fois. De même, remarquez la chaire qui est assez extraordinaire aussi, avec la bavoie, ou même donc les anges, profusion donc d'or, d'ornements, de stucs, de marbre, et donc toutes sortes, donc surtout aussi, caractéristique ici. Contrairement à la Renaissance, c'est un amour immodéré pour les courbes et les contre-courbes, et c'est donc une des caractéristiques du baroque. Autre exemple, ici nous sommes en France, c'est le cœur de la collégiale Notre-Dame de Guebwiller, qui est fin 18e, dans les années 1784 environ, et l'architecture, elle, annonce déjà le néoclassicisme, donc certaines austérités ou dépouillement donc dans l'architecture, c'est-à-dire dans ses pilastres ou ses colonnes, mais néanmoins le chœur est très chargé avec ses boiseries stuquées, et puis bien sûr au-dessus de l'autel l'Assomption de la Vierge qui est soutenue donc par des nuées et des angelots, et puis tout en haut dans le chœur bien sûr le triangle dans cet oculus lumineux, donc qui évoque bien sûr la lumière céleste, avec donc une gloire faite donc de deux rayons dans le stuc et puis d'angelots. Donc il y a une certaine, je dirais, contradiction entre l'architecture extrêmement dépouillée et puis ce décor donc baroque à l'intérieur du chœur. Nous sommes là ici en Alsace, non loin de Strasbourg, à Guebwiller. Autre exemple, en Bavière. Ici, une ornementation extraordinaire, je veux dire d'une profusion extraordinaire. Toute la Bavière, bien sûr, toute l'Allemagne du Sud, qui est restée fidèle au catholicisme, est remplie d'églises de ce type, avec donc un décor qui date des années 1750-1760, environ, donc milieu du 18e, extrêmement chargé, extrêmement abondant. Nous retrouvons exactement le même principe du triangle dans l'oculus lumineux avec la gloire. On retrouve exactement ce genre de décor, ce genre de motif aussi, par exemple à l'église Saint-Roch à Paris, qui était une des églises baroques de Paris, mais enfin, à Paris, il ne reste plus rien, donc du 17e, donc on a très peu d'exemples de ce genre de décor. Et puis, il me semble que j'ai encore un décor à vous présenter, un exemple, cette fois-ci italien, qui est la chapelle Spada, qui est due à Francesco Borromini, qui était le grand rival du Bernin, donc dans la Rome baroque du XVIIe, et qui aussi parle de lui-même, avec une ornementation de marbre polychrome assez extraordinaire, avec en plus le banc de communion, qui est comme un drap plié, donc tenu par deux anges, et puis donc l'image de la Vierge ici encadrée donc dans cette couronne de laurier, enfin je ne sais pas très bien exactement. Donc la chapelle Spada par Borromini. Finalement, donc ce que les protestants niaient, eh bien l'Église va l'affirmer, c'est ce que nous allons voir tout au long donc de ce thème. Autre aspect donc de la controverse, le culte des images. Eh bien, puisque les protestants détruisent des images, eh bien, les catholiques vont les trouver, disons, les images vont être encore plus chères aux catholiques. Selon certains témoignages de l'époque, quelques-unes des images étaient sensibles aux injures des hérétiques et se mettaient à pleurer, donc versaient des larmes. D'autres, frappées par les profanateurs, auraient versé du sang. C'est ainsi qu'à Weiss, en Allemagne du Sud, il y a une statue qui n'a pas été injuriée ni profanée, mais qui a été délaissée. C'était une statue représentant un Christ à la colonne qui a été délaissée par des prémontrés, et elle est apparue en pleurs à de simples fidèles dans les années 1738, et finalement donc l'abbé donc des Prémontrés a décidé d'édifier une chapelle pour remplacer la petite chapelle de bois qui était devenue une chapelle de pèlerinage extrêmement fréquentée. Et donc il va y avoir une élévation d'un sanctuaire assez extraordinaire qui est due à un architecte qui s'appelle Dominicus Zimmermann au milieu du 18e, et qui est une église, on dit le Christ, donc dédiée au Christ à la colonne, in der Weiss, c'est-à-dire dans la prairie. C'est une église qui est baroque, qui est extraordinaire. Malheureusement, j'en ai pas d'exemple en photo, mais qui est construite dans les prés, en plein champ. Vous avez à côté des champs, donc avec aussi des troupeaux, mais une église baroque dans le genre de celle que nous venons de voir, donc en Allemagne du Sud. Toutes les statues qui ornaient les angles des maisons en Italie ou en France, toutes les madones peintes sur les murs, finalement vont devenir l'objet d'une très grande dévotion chez les catholiques, et elles étaient très souvent éclairées d'une petite lampe. Nous n'avons plus du tout ce genre d'exemple en France, malheureusement, mais en Italie, on peut encore trouver ce genre de décor, même des décors très médiocres de qualité, mais peu importe. Et chaque passant qui passait devant ces madones peintes ou devant ces petites statues se signait, récitait donc une prière très brève. Et quelquefois, certaines d'entre elles étaient même transportées dans des églises, ou d'autres suscitaient des constructions donc de sanctuaires pour les abriter. Notamment, je voudrais juste citer une image de la Vierge qui a été très vénérée par le peuple au portique d'Octavie, et qui a été transportée à la Chiesa Nuova à Rome, qui est donc l'église de Saint-Philippe Neri. Et elle a été considérée comme une image miraculeuse. Et, image de la Madone à l'enfant, donc dans un tableau de Rubens qui est au musée des Beaux-Arts de Grenoble, si vous voulez le retrouver, et qui représente Saint Grégoire avec d'autres saints vénérant la Madone. Et on voit donc différents saints sous un portique, et puis tout en haut, l'image donc de cette Madone à l'enfant qui provient donc du portique d'Octavie. Dans toute l'Italie, on trouve des exemples de ce culte rendu aux images. De même, en France, on avait à Paris des exemples similaires, comme une statue de la Vierge qui décorait l'autel du duc Henri de Joyeuse, qui était entourée d'une telle vénération qu'elle a été transportée dans une chapelle qui lui a été consacrée, et c'était une chapelle dans l'église des Capucins, démolie au moment de la Révolution, comme la plupart des églises parisiennes. Alors, également multiplication donc des images, mais également multiplication des livres sur les images vénérées, dans toute la chrétienté, notamment sur la Vierge. Et je voudrais juste vous citer, je crois qu'il y a, attendez, oui, des livres entiers qui ont été consacrés donc aux images célèbres, notamment Sampieri, qui a passé en revue toutes les Vierges vénérées à Messine, et notamment avec la Vierge de la Lettre, qui était soi-disant peinte par Saint Luc, et c'est ce que je vous présente, je vais vous présenter ici. Finalement, c'est selon la tradition, Saint-Luc aurait peint le portrait de la Vierge. Alors, je n'ai pas... Il y a multiplication de ce thème tout au long du XVIIe. Ici, c'est un tableau de Mignard, donc français, et qui est extrêmement fin du siècle, fin du XVIIe, puisque c'est 1695, l'année de sa mort, qui est un tableau qui est conservé à Troyes, au Musée des Beaux-Arts, qui est peut-être médiocre de qualité par rapport à d'autres tableaux de Mignard, et puis n'est pas si heureux que ça, finalement, à l'œil, à le regarder, mais qui présente Saint-Luc en train donc de peindre la Vierge à l'enfant. Et donc on a donc l'apparition céleste sur les nuages, qui correspond aussi à une intervention en quelque sorte du monde céleste venant donc, ou de l'espace céleste intervenant dans l'espace terrestre. Et ce genre de thème, donc Saint-Luc peignant la Vierge, va donc se développer à tel point que dans certaines représentations de Saint-Luc, qui généralement est représentée avec le bœuf, donc son symbole, eh bien, est représentée quelquefois donc avec le portrait de la Vierge. Donc finalement, ce portrait va devenir pratiquement un des attributs du saint. Il faut savoir aussi que cette querelle des images, cette querelle iconoclaste, finalement, ne fait que ressurgir avec la vieille querelle iconoclaste des premiers siècles de l'Église. Beaucoup de récits se rapportent au culte des images et on voit très fréquemment la Vierge qui récompense ceux qui les honorent ou ceux qui les défendent avec des miracles, des mains coupées qui viennent se replacer miraculeusement sur certains saint qui était peintre également. Donc c'est un parallèle à établir, en tout cas, avec le protestantisme, c'est-à-dire vieille querelle iconoclaste et protestantisme. Finalement, pour les catholiques, les protestants ne font que renouveler cette vieille hérésie iconoclaste, et les écrivains luthériens et calvinistes célébraient Léon l'Isaurien et Constantin Coprônime comme les premiers apôtres donc de la vérité, et répétaient leurs décrets comme des arguments, bien sûr, qui vont être décriés par les catholiques comme Canisius ou Zovius. Toujours pour le portrait de Saint-Luc, je pense que je n'en ai plus. Le portrait de Saint-Luc, pour reprendre donc ce thème de la Vierge donc peinte par Saint-Luc, il faut aussi y voir au-delà donc du tableau, du simple portrait de la Vierge, je pense qu'il faut y voir aussi une signification dogmatique. Si Saint-Luc, apôtre, a peint la Vierge, a fait le portrait de la Vierge, c'est bien sûr que dès les premiers temps de l'Église, donc dès les temps apostoliques, les peintures, les représentations donc figurées étaient acceptées donc par l'Église. Voici ce qu'il faut voir donc dans ce portrait. Et le portrait de la Vierge par Saint-Luc, qui est conservé à Sainte-Marie-Majeure, enfin ce fameux portrait entre guillemets, donc qu'on le retrouve dans le tableau de Rubens, était alors cru comme authentique, comme véritablement l'œuvre de Saint-Luc. Plusieurs œuvres d'art vont répondre donc pour confondre le protestantisme iconoclaste dès la fin du XVIe siècle. Il va y avoir donc une floraison de l'art chrétien, et en Italie, en Espagne et en France, donc il y a un très grand foisonnement. Malheureusement pour la France, les ruines de la Révolution ont été telles qu'il n'y a pratiquement plus rien, et il faut juste, nous sommes obligés de nous contenter des descriptions anciennes du XVIIe et XVIIIe siècle, donc sur les œuvres d'art et les édifices. Je voudrais juste vous terminer sur ce plan donc de la lutte iconoclaste, enfin lutte contre les réponse de Canisius aux protestants. Si nous étions des anges, nous n'aurions besoin ni d'église, ni de culte, ni d'image, mais nous ne sommes que des hommes. Liés à cette lourde chair, notre âme s'élève quelquefois, mais elle retombe bientôt. Il est nécessaire que l'église nous rappelle sans cesse ce que nous sommes toujours prêts à oublier. Voici donc les réponses des catholiques donc aux protestants. Eh bien, puisqu'il y a négation des images des protestants, eh bien l'église va multiplier les images. Et à chaque fois, à chaque point donc de la controverse, l'Église va répondre donc par multiplication, floraison, et prendre le contre-pied, et finalement sera en quelque sorte un détonateur extraordinaire donc pour l'art du XVIIe. Je voudrais peut-être encore aborder un point qui est la défense de la Vierge contre les protestants. L'art au XVIIe va défendre donc la Vierge contre les protestants. Les protestants, toutes confessions confondues, vont s'acharner particulièrement contre les images de la Vierge, car ils lui sont profondément hostiles. Pour les protestants, les catholiques adorent la Vierge et elle remplace le Christ. Bien sûr, donc l'Église va répondre. Luthériens et calvinistes allaient jusqu'à nier même l'authenticité de la parole de l'ange, Ave Maria, Gratia Plena. Finalement, les jésuites vont également répondre, et ils vont prendre, dans un livre qu'ils publient à la fin du 1er siècle de la Compagnie des Jésuites, ils vont répondre ceci, eux-mêmes, ils prirent la résolution d'honorer la Vierge d'une façon toute particulière, en voyant les hérétiques l'injurier et déchirer ses images. Et ils vont créer de très nombreuses confréries de la Sainte Vierge. Le culte de la Vierge au début du XVIIe était célébré avec d'autant plus de ferveur, donc, pour effacer les paroles offensantes et les livres impies, donc par les protestants. Canisius disait que les chrétiens parlaient de la Vierge avec moins de respect que les musulmans. Donc c'était pour donc vraiment l'hérésie la plus folle. Et nous allons voir aussi, par exemple, les multiplications des noms qui sont donnés, attribués à Marie. Ou par exemple, à Naples, beaucoup d'églises consacrées à la Vierge s'intitulent Sainte Marie de l'Étoile, Sainte Marie de la Rose, Sainte Marie de la Neige, Sainte Marie des Anges, Sainte Marie des Servantes, Sainte Marie des Âmes. Donc on pourrait énumérer, établir une liste très longue. Il y a beaucoup de recueils consacrés à la Vierge, et ces recueils vont se multiplier tout au long du XVIIe, des livres d'heures, des offices de la Vierge, etc. Jésuite de Lisbonne, le père Mendoza, disait ceci, « Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui ont le culte de la Vierge ne sauraient être damnés. Ils ont beau être chargés de tous les crimes, elle leur envoie, au moment suprême, la minute de repentir qui suffit à les sauver. » En France, bien sûr, M. de Bérulle, M. Ollier, donc... contribuait donc à ce développement du culte marial, et pour eux donc elle incarnait elle forma le corps du Christ en elle comme le prêtre, donc en prononçant les paroles sacramentelles, le forme à l'autel. Donc voici donc pour les théologiens français du XVIIe, donc de l'oratoire et de Saint-Sulpice. La Vierge est victorieuse de toutes les hérésies au XVIIe et depuis le début de l'Église, et c'est ce que je vais vous présenter dans quelques tableaux. Alors je vous présente des tableaux qui sont plus anciens justement pour faire un point de comparaison. Ici c'est un tableau qui est intitulé La Madone du Secours, et qui est d'un artiste anonyme, florentin, du XVe, et qui nous présente donc la Vierge tenant un gourdin en train donc elle va terrasser donc le diable ou un démon, enfin qui nous est présenté sous une forme assez cocasse finalement. Et puis les personnages qui sont beaucoup plus petits que la Vierge présentent bien sûr l'aspect donc de protection de Marie, donc qui est plus grande et qui apparaît donc aussi un petit peu un côté un petit peu immuable ici dans ce tableau, avec ce manteau que l'on voit aussi tout au long du XVe siècle dans certains tableaux, un manteau donc une Vierge de Miséricorde qui prend sous son abri, donc sous son manteau. Des personnages, donc des laïcs qui viennent s'y protéger. Donc la Vierge, pour les catholiques du XVIIe, va vaincre le protestantisme par sa puissance de séduction, et elle va effacer toutes les erreurs de Luther et de Calvin, et comme elle avait finalement triomphé des hérésies d'Arius et de Nestorius lors des premiers siècles. Finalement, c'est la ferme espérance de l'Église, et l'on introduit ici dans le rosaire, à ce moment-là, un verset, le verset d'une antienne du Moyen-Âge. « Réjouis-toi, Vierge Marie, disait-on, c'est toi seule qui as détruit toutes les hérésies. » Ce que l'on trouve donc à l'époque. Il faut aussi voir que dans certaines représentations, notamment des prophètes, je pense notamment à Isaïe, Daniel, Jérémie, Ézéchiel, eh bien, on les voit représentés au XVIIe en train de prononcer un verset annonçant la conception virginale de Marie, et je n'ai aucun exemple à vous présenter malheureusement en photo, mais vous avez donc toutes les figures des prophètes au XVIIe qui tiennent donc un phylactère entre les mains, c'est-à-dire un rouleau, donc avec une banderole, si vous préférez, donc avec un verset donc annonçant la conception virginale de Marie. Alors on retrouve aussi cet aspect dans la voûte de la Sixtine avec les prophètes et les sibylles de Michel-Ange, et cet aspect donc de discussion de l'authenticité, la traduction de la Vulgate donc par saint Jérôme. Et il faut aussi voir que il y a tout un programme iconographique donc pour ces tableaux consacrés à la Vierge, qui va être aidé encore par les docteurs de l'Église. Voici ce que dit Severano, prêtre de l'oratoire. Il y a, dit-il, dans la chapelle Pauline, nous sommes à Rome, beaucoup de sujets peints par les premiers artistes de notre temps et ordonnés ainsi que des inscriptions par les pères Tommaso et Francesco Bozzi de notre congrégation de l'oratoire à la demande du pape Paul V. Ce qui veut donc dire que, effectivement, des prêtres oratoriens ou jésuites ou carmes ou capucins ou d'autres ordres donc aidaient les artistes à donc établir une très grande cohérence donc dans les programmes iconographiques, parce qu'au-delà d'une simple représentation, il fallait voir aussi qui pouvait être perçu par les simples fidèles. Il fallait voir donc toute la puissance, je dirais, politique ou dogmatique, hein, donc au second degré qui existait. Après donc 40 ans de lutte, la France va rester catholique et la Pologne, l'Autriche, l'Allemagne du Sud et une partie de la Suisse vont également rester catholiques. Donc il y a une certaine victoire de l'Église malgré la présence de protestants qui n'ont pu être enrayés, je ne sais pas. Et donc il y a beaucoup de fresques, donc, notamment dont je n'ai pas d'exemple en photo, mais à Sainte-Marie-la-Victoire ou à Sainte-Marie-Majeure, donc qui illustre ce thème donc de lutte contre la réforme. Je rappellerai également qu'il y avait une grande discussion dans certains la discussion du concile d'Éphèse, donc des premiers siècles, va être remise à l'honneur, et dans certains tableaux on va voir donc réaffirmation de l'affirmation au concile d'Éphèse donc de la Vierge mère du Christ, mais également mère de Dieu, ce que les protestants niaient donc encore une fois. Je voudrais vous présenter maintenant juste deux tableaux avant d'aborder le thème donc de la Vierge et de l'enfant écrasant le serpent, symbole de l'hérésie, parce qu'il y a un geste que nous allons retrouver dans dans la Vierge écrasant le serpent. C'est ce tableau qui est de Raphaël, donc une Vierge à l'enfant avec le petit Saint Jean-Baptiste, qui est celui-ci est à Florence, aux Offices, et puis le tableau suivant qui est exactement le même thème, vous avez à chaque fois l'enfant Jésus qui a les deux pieds sur le pied de sa mère, et qui en fait ici est juste un geste de tendresse, d'affection donc entre la mère et l'enfant. Nous allons voir qu'avec les tableaux du XVIIe, ce geste va prendre une signification complètement différente. Merci. Bon, là, c'est le même sujet. Donc, l'enfant Jésus a un pied posé sur le pied de sa mère. Mais ici, il ne faut y voir qu'un geste de tendresse. Or, dans le tableau suivant, qui doit être du Caravage, et c'est donc ce tableau dont je parlais tout à l'heure, donc refusé par l'Église, voilà. Ici, l'enfant donc a son pied sur le pied de sa mère, mais pour terrasser le serpent. Donc, que signifie finalement ce tableau ? Ce tableau a été refusé parce qu'il a été considéré, on a considéré qu'il s'agissait d'une. La Vierge était présentée comme une paysanne en train d'écraser une vipère entrée dans une grange. Voilà ce que l'Église a dit à propos de ce tableau du Caravage. Je crois qu'en fait, ici, il faut voir tout un symbole, c'est-à-dire c'est l'Ève nouvelle qui remplace l'Ève ancienne. Elle écrase la tête du serpent, qui est l'esprit du mal. Et au XVIIe, qui est aussi incarne l'hérésie. Plus que l'esprit du mal, elle incarne, enfin, le serpent incarne également l'hérésie. Canisius cite Saint Bernard, voici ce qu'il dit. En écrasant la tête du serpent, elle a elle-même, toute seule, écrasé toute la perversité des hérésies. Et Pie V, dans une bulle sur le rosaire, je crois, donc a réaffirmé ce dogme. Les protestants, bien sûr, ont critiqué le texte de la Vulgate parce que pour eux, ce n'est pas la Vierge, mais le Christ qui est vainqueur des hérésies. Et ils se sont servis de certaines traductions, notamment des Septantes, où l'on voit le masculin qui est utilisé, ipsé, et alors que dans la Vulgate donc, de Saint Jérôme, on trouve les deux termes, ipsé ou ipsa, donc masculin ou féminin. Alors les protestants finalement disaient, non, ce n'est pas la Vierge, c'est le Christ seul. Et les catholiques vont répondre, ils vont trouver une conciliation extrêmement ingénieuse, et c'est ce qui est évoqué ici dans ce tableau. Voici ce qu'ils répondent. Il y a, ce que répond Jean de Carthagène, il y a une lutte engagée entre la femme et le serpent, et c'est la femme qui triomphe, mais elle triomphe par son fils. Et dans la bulle de Pie V sur le rosaire, voici, la Vierge a écrasé la tête du serpent à l'aide de celui qu'elle a enfanté. Donc en fait, c'est la Vierge avec le Christ donc, qui sont vainqueurs, tous deux, du serpent. Voici donc ce tableau ici du Caravage, qui est à la galerie Borghese, qui a été donc commandé au départ pour Saint-Pierre de Rome, mais qui a été refusé par les chanoines car jugé trop grossier. Cela dit, ce sujet, c'est le seul tableau que j'ai à vous présenter, enfin, seul exemple que j'ai à vous présenter pour ce tableau. C'est un sujet qu'on rencontre dans toute l'Europe catholique. Il va y avoir aussi des variations, par exemple, Sébastien Bourdon, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, qui est protestant, eh bien lui grave ce sujet, mais il présente l'enfant seul en train d'écraser le serpent. Il est protestant. Donc évidemment, il ne peut pas représenter ce geste. Et puis par exemple, Rubens, lui, s'en tient à la Vulgate. Eh bien, la Vierge porte l'enfant dans ses bras et c'est elle seule qui écrase le serpent. Donc il y a une certaine nuance et il faut être très attentif, je pense, aux représentations peintes ou sculptées. Dans la cathédrale d'Amiens, c'est la même chose. Il y a une sculpture de Nicolas Blasset. Le serpent est écrasé par la Vierge et il est achevé par la croix que tient l'enfant Jésus, mais qui est portée dans les bras de sa mère. Donc il y a toutes différentes nuances donc, dans ces représentations. Cette image va se répandre donc, en Italie, en Flandre, en France, en Espagne, un petit peu partout. Je voudrais évoquer maintenant un autre aspect donc, de la Vierge, du culte de la Vierge. Alors, le dogme donc, de l'Immaculée Conception, donc, qui n'a été adopté qu'au XIXe, mais a été défendu par les jésuites, et finalement, c'était une idée qui existait depuis, qui était dans l'Église depuis pratiquement les premiers siècles. Il y a différents édifices, sanctuaires, ou notamment à Naples, une colonne, qui va être une colonne triomphale pour l'Immaculée Conception, qui va être construite par les jésuites, avec donc beaucoup de saints ou tous les pères de l'Église donc, qui vont être représentés sur cette colonne. Beaucoup d'autres ordres vont défendre la Vierge qui est attaquée par les protestants et quelquefois on la représente en peinture avant le commencement du monde. C'est-à-dire que les artistes et l'Église répondent aux protestants puisque, écrivait Luther, il est certain que le Christ a été avant tous les siècles, mais dire cela de Marie, c'est dire un pur mensonge, c'est blasphémer contre Dieu. Alors bien sûr, l'Église et les artistes multiplient les images de la Vierge et de l'Immaculée Conception. Alors on pourrait citer bien sûr toutes les fresques ou toutes les peintures ou toutes les sculptures qui sont consacrées à ce thème, mais on peut voir notamment à l'Araceli à Rome, l'église mère des franciscains, tout un cycle de fresques, donc la Vierge représentée avant le commencement du monde, ou encore des représentations de la Vierge assistant à la lutte de Saint Michel et des mauvais anges, donc ça veut dire avant la conception du monde. Également la Vierge représentée avec Adam et Ève, ça c'est du paradis terrestre, mais elle est debout sur le serpent, d'autres types de représentations. Néanmoins, ce genre de représentation qui se multiplie au XVIIe existait, là, pour Adam et Ève chassés du paradis terrestre, avec ici Frangelico, où l'on voit donc la colombe de l'Esprit-Saint donc, qui donc, couvre donc, de son ombre Marie, et en même temps, il y a un ange qui chasse Adam et Ève. Donc, ce qui veut dire qu'on a, en même temps que le péché originel, il y a aussi l'annonce donc, de la rédemption donc, par l'annonce à Marie. Donc voilà, je dirais, dès le 15e, on a ce genre de thème, mais je suis persuadée qu'on peut trouver d'autres exemples, parce que la difficulté en histoire de l'art, c'est qu'il y a toujours un contre-exemple. Donc voilà cette représentation de la Vierge avant le commencement du monde. L'Église donc, démontre, une fois de plus, que l'histoire de la Vierge commence avec le monde, souvent avant le monde, et la chute des anges rebelles, ou Adam et Ève, et bien voilà ce genre de thème, avec un autre tableau, maintenant ici Velázquez, donc espagnol du XVIIe, cette fois-ci, si c'est un couronnement de la Vierge, en fait, on a la Trinité et la Vierge qui est couronnée. Donc, il y a bien sûr ici une représentation, au-delà du couronnement de la Vierge, il faut voir ici donc, la Vierge représentée donc, aussi avant le commencement du monde. Il faut aussi savoir que tout au long du XVIIe, donc tous les livres d'heures français... les livres d'heures français du Moyen-Âge représentaient très fréquemment la Vierge avec les mains jointes, les cheveux sur les épaules et les symboles des litanies que je vous redonne, le lys, la rose, le palmier, la lune, l'étoile de la mer, la porte, le miroir sans tache, la fontaine, le puits d'eau vive et le jardin fermé. Ce sont des symboles donc, que l'on va retrouver dans des images de l'Immaculée Conception, notamment chez les Espagnols. Donc cette image de l'Immaculée Conception est apparue avant la contre-réforme, mais elle va se développer après le Concile de Trente. Alors, bien sûr, sous les attaques de Luther et de Calvin, il y a multiplication de cette image. J'aurais voulu vous présenter maintenant une sculpture donc d'un artiste français, qui est le sculpteur baroque du XVIIe français, et c'est Pierre Puget. Ici, c'est une Vierge Immaculée qui est à l'oratoire Saint-Philippe à Gênes, où l'on voit donc la Vierge portée donc par des anges, avec bien sûr ici le caractéristique du baroque, c'est-à-dire un tourbillon donc extraordinaire dans la draperie donc de son manteau, et puis un visage extrêmement juvénile, extrêmement doux. En même temps, tous les petits angelots qui portent donc la Vierge tiennent. Il y a un serpent que vous apercevez peut-être ici. Ici la porte, donc la façade de temple, en quelque sorte, ou le miroir que tient donc ce petit angelot qui est ici. Donc, quelques symboles des litanies de la Vierge. Autre exemple. Depuis l'Apocalypse de Saint Jean à Patmos, on sait que il a eu une vision donc de la femme nimbée d'étoiles, et on retrouve le croissant de lune, on retrouve donc exactement ce type, cette représentation créée certainement par Murillo donc en Espagne, et qui va se développer tout au long du XVIIe et même jusqu'au XVIIIe avec des artistes, un artiste aussi inattendu que Tiepolo. J'ai un exemple à vous présenter. Donc la Vierge de l'Immaculée Conception des artistes espagnols, voici donc ici avec un visage aussi très, très juvénile, enfin toute jeune, avec les anges donc, qui supportent la Vierge. On ne voit pas, je pense, ici les symboles des litanies. Mais je crois que dans le tableau suivant, on va voir donc voilà ici donc symbole des litanies avec la rose, le palmier, le miroir sans tache, la fleur de lys. Il me semble qu'il y a l'escalier sur la gauche. Bon, bien sûr, les étoiles qui entourent la tête de la Vierge, la colombe de l'Esprit Saint, et en même temps remarquez donc le serpent en train de croquer la pomme et qui est donc écrasé par la Vierge. C'est une image qui est tellement répandue qu'on voit des statues dans bon nombre d'églises, même à Paris, vous en trouvez très fréquemment des statues qui sont saint-sulpiciennes, enfin dites saint-sulpiciennes, qui sont bien sûr des statues de dévotion sans aucune qualité, je dirais, artistique, mais qui reprennent exactement tous ces thèmes, donc en tout cas cette Vierge donc en train de terrasser le serpent. Et puis celle-ci est de Tiepolo, donc fin 18e, c'est assez inattendu lorsqu'on connaît les tableaux de Tiepolo, qui représentent très fréquemment des fêtes vénitiennes, hein, ou des vedoutées vénitiennes, voilà quelque chose d'assez extraordinaire, avec donc toujours ces mêmes caractéristiques. Et puis je crois que j'ai encore une dernière Vierge, cette fois-ci extraordinaire aussi, de Bernardino Cavallino, qui est un artiste 17e italien de Naples, donc qui a des accents un petit peu ténébreux dans sa représentation et qui sont à mettre en relation avec la peinture espagnole, bien sûr, par le royaume de Naples. Donc ici, les têtes de chérubins donc, qui entourent la Vierge, et puis dans le bas, donc les angelots qui tiennent des fleurs de lys, des roses, et puis un rameau, je pense, d'olivier. Donc voilà, pour ce dogme de l'Immaculée Conception, je souhaiterais terminer, malheureusement sans image, parce que je n'ai enfin, sans présentation, pardon, avec un autre aspect, un autre dogme qui va être défendu par l'Église, qui est celui des indulgences et du purgatoire, puisque la querelle des indulgences, en fait, marque le début de la Réforme. Eh bien, les protestants, finalement, refusent de croire la vertu des indulgences, nient plutôt la réalité du purgatoire, et c'est, disait-il avec cette ironie insultante dont Luther leur avait donné l'exemple, le feu qui fait bouillir la marmite du pape. Voici ce que disaient les protestants, donc, pour les indulgences et le purgatoire. Alors, pour les protestants, il est inutile de prier les morts, parce que finalement ça ne sert à rien, et donc les catholiques se voient interdits, d'après les protestants, de prière pour leur propre mort, alors que des païens offrent du lait, du miel, du vin donc à leur mort. Donc je veux dire, ça me paraît complètement hérétique, et il faut voir dans cette défense de l'Église incarnée en peinture, essentiellement par des représentations de Saint Grégoire le Grand, une allusion donc au quatrième livre des dialogues de Saint Grégoire le Grand, où l'on voit beaucoup de récits extraordinaires, merveilleux, sur les âmes, des âmes qui étaient perdues, qui vont être achetées, ou qui vont pouvoir réintégrer le purgatoire, où c'est exactement aussi ce que l'on voit, d'ailleurs au Moyen-Âge, dans des représentations sculptées, je pense notamment au portail sud de Notre-Dame de Paris. Je crois qu'il y a l'histoire de Théophile qui aurait vendu son âme au diable et qui finalement implore Marie et qui, grâce à l'intercession de Marie, n'est pas d'année. Voilà. Donc, c'est le thème principal donc, pour les indulgences et le thème du purgatoire. C'est essentiellement des tableaux représentant, évoquant des visions de Saint Grégoire le Grand ou la messe de Saint Grégoire, ou également la Vierge intercédant donc, pour les âmes. Donc, c'est exactement essentiellement les scènes que l'on retrouve. Je crois que nous n'avons pas le temps de continuer. Donc, nous continuons la prochaine fois avec la défense donc, d'autres dogmes. C'est bien sûr la défense, évocation donc, de la papauté contre le protestantisme. Ensuite, il y aura aussi la défense des sacrements et la défense aussi des œuvres de charité, également du culte des saints et du culte des reliques qui ont été donc très fortement attaqués par les protestants.